Bonjour et bienvenue dans le numéro 94 de l'émission consacrée à la famille de l'association Équité Parentale depuis Périgueux dans le Périgord. Aujourd'hui, une émission toute particulière qui verra la suite de l'entretien avec Alain Rioux de Québec sur la loi 15 qui attaque les droits parentaux extrêmement fortement dans ce pays, un projet de loi contre lequel il lutte, et il finira de nous expliquer pourquoi il lutte contre ce projet de loi. Et nous aurons également en deuxième partie un relais d'une interview de Maître Hamas de Marseille, extrêmement impliqué dans le problème de l'ASE et des places en France, hein, Maître Hamas qui est à l'origine de plusieurs projets de loi passés dernièrement, notamment la non-séparation des fratries et le fait que chaque enfant, au juge des enfants, puisse avoir un avocat, quel que soit son âge, même si dans sa loi, il indique un processus d'attribution d'avocat qu'il faudra effectivement respecter. Nous verrons ça en deuxième partie d'émission, sachant que Maître Hamas, en fait, nous a accordé un entretien que nous aurons en avril, donc nous aurons une émission spéciale en avril, comment faire lorsque les services sociaux viennent prendre l'enfant ou s'approchent, quelles sont les actions à faire, à ne pas faire, les attitudes à avoir, comment faire le mieux pour son enfant, quelle est la meilleure posture pour montrer que l'on n'est pas un parent défaillant, c'est une question importante quand même. Hein. Et puisque nous en sommes là, et comme il est effectivement également important de savoir se remettre en cause et d'écouter les critiques, eh bien écoutez, cette émission va être prochainement renommée. Il y a plusieurs invités qui ne comprennent pas le jeu de mots qu'il peut y avoir avec Jaffe ta mère et qui trouvent l'intitulé un peu agressif et qui émettent donc quelques réticences à venir participer. Alors, nous les entendons. Nous avons lancé sur le Facebook de l'association un sondage pour demander effectivement à notre communauté, hein, si jamais ils sont d'accord pour renommer ou pas l'émission. Il semblerait que majoritairement vous l'êtes, vous seriez d'accord pour une espèce de rebranding, pour changer un petit peu le logo, les génériques et les transitions et sortir de cet intitulé pour en faire un autre. Alors actuellement, celui qui a la cote, ce serait un titre du style « Famille, justice, enfance ». Mais tout ceci est encore à l'étude, mais ne vous inquiétez pas, cela arrivera extrêmement prochainement.
RLP, Radio Libre en Périgord.
Alors avant de rejoindre Alain Rioux pour le projet de loi 15 au Québec, voici un avant-goût de Maître Hamas, Michel Hamas et de son combat. Voici notamment une petite déclaration de quelques minutes qui permettra de comprendre l'environnement dans lequel ce monsieur agit et intervient.
À nouveau Michel Hamas, avocat à Marseille, des pistes. Des pistes à travailler ensemble. Premier élément qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas trop pris en compte à l'évidence, c'est la rupture totale qui est organisée par les magistrats dans le cadre des placements. C'est brutal, c'est-à-dire qu'on passe, dans la plupart des dossiers, d'une vie familiale à plus rien. C'est-à-dire c'est la destruction totale, c'est la conception même de la décision qui est mauvaise, c'est-à-dire qu'il y a une rupture totale dans la famille, dans le lien familial, il y a une brisure avec une visite par mois de une heure, ou parfois deux, mais bon... Et ça pendant plus d'une année la plupart du temps. C'est la conception même de ça qui n'est pas possible. Ça brise le lien, ça brise des familles, et c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Et la durée est beaucoup trop longue. La durée est longue parce que les magistrats sont écrasés par les procédures pénales. Ça, c'est à réformer. L'état post-traumatique des familles, pas du tout pris en compte. Ce dont il faut parler également, c'est le « après ». C'est le après. Il faut savoir que 70% des gens qui sont dans la rue aujourd'hui sont des enfants qui ont été placés. Pourquoi ? Parce que le lendemain du placement des 18 ans, il n'y a plus rien. Rien n'est prévu. Rien n'est prévu pour les enfants. Alors, est-ce que ça doit aller plus loin ? Est-ce qu'on doit... Moi, j'ai pas la réponse à ça. Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. On se retrouve alors avec des familles qui sont très aimantes, des enfants, elles sont très proches. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime ces enfants ? Par contre, le jour où il a 18 ans, on le met dehors et on en prend un autre tout petit parce qu'on va beaucoup l'aimer aussi, celui-là. Ça me pose une grosse difficulté. Moi, personnellement, le fait que les familles d'accueil qui sont si aimantes, qui sont en fait nos adversaires, parce qu'il faut voir comment ils fonctionnent dans le cadre des placements, ça ne les gêne pas de jeter les enfants dehors à 18 ans. Ces enfants qui se retrouvent la plupart du temps dans la rue. La plupart du temps dans la rue parce qu'il n'y a plus rien. Le lien avec la famille initiale est détruit et le lien avec la famille d'accueil est fictif. Alors voilà, les pistes que j'ai, moi, à vous donner, c'est travaillons sur plusieurs choses. Hein, c'est la conception même de la décision qui est de stopper, de briser la relation familiale. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est contre ça qu'on a à se battre. On a à se battre aussi dans la notion même du juge pour enfants, qui a deux types de décisions, d'attribution. C'est la violence des enfants mineurs, et 80% des délits, 75% des délits sont commis par des mineurs, donc le juge est perdu. Et l'autre mesure, c'est, pour le juge, c'est l'AEMO. Du coup, le juge des enfants en cadre AEMO, il est perdu. Il est perdu parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de vos dossiers. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'est les pistes. Moi, je ne suis pas pour qu'on bouleverse tout. Hein, la justice fonctionne. Je ne suis pas pour qu'on bouleverse tout, mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est modifier et accorder surtout des crédits, parce que là, il n'y a pas assez de crédits aux juges pour enfants.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
De retour donc aujourd'hui avec Alain Rioux de Québec, qui nous a expliqué dans les deux émissions précédentes que le projet de loi 15 à Québec donnait à la DPJ, la Direction de la Protection de la Jeunesse, la possibilité d'effectuer des placements sans devoir les motiver ni les justifier. Sachant qu'il disait que déjà aujourd'hui, il y avait plus de 98% des cas où les placements étaient acceptés, c'est-à-dire qu'à partir où les services de l'État venaient demander un placement des enfants, les parents n'avaient absolument aucune chance, dans la pratique, de le faire éviter. Il nous a également expliqué les problèmes de conflit d'intérêts avec des juges qui étaient parfois et même souvent des anciens avocats de la DPJ. Et il nous a également parlé du manque de qualification des jeunes filles majoritairement utilisées dans ce process de placement. Et donc ce projet de loi 15, lui, attaque l'autorité parentale et met la préférence de l'autorité gouvernementale, en fait institutionnelle, par rapport à l'enfant. Et il va nous parler aujourd'hui des dérives éventuelles qu'il peut y avoir par rapport notamment à la mise sur le marché, disons-le, de ces enfants dans le cas des procédures d'adoption. Vous en étiez, okay. Il semblerait que dans les foyers de réadaptation, il se passe des choses difficiles. Donc foyers de réadaptation, c'est ce qu'on appelle les foyers chez nous, en fait, hein, c'est la même chose.
Possiblement. Je ne pourrais pas répondre à votre question.
D'accord. Nous avons eu des reportages extrêmement inquiétants sur la qualité des foyers des enfants placés en France, avec des noms, des agressions, des viols et autres. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes au Québec?
Bon, moi, je le sais dans le fond par des informations qui m'ont été transmises par des parents, mais des informations officielles, je ne saurais pas vous dire exactement.
Donc, en fait, pour résumer, nous avons un gouvernement québécois, disons une assemblée québécoise, qui prépare une loi qui en fait va donner du pouvoir à des jeunes très peu qualifiés pour rentrer dans les familles, pour aller piquer les gamins et les mettre dans des endroits où ils en ressortent non instruits, non éduqués, non préparés à la société. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, là, si j'ai bien compris.
Ben écoutez, je veux dire...
Je caricature un petit peu, mais ça paraît violent, mais bon, c'est ce que vous nous expliquez.
C'est une petite partie qui va en centre de réadaptation, mais c'est plus ce qui est plus inquiétant, dans le fond, c'est, selon moi, c'est pour l'avenir du reste du siècle, dans le sens que si on ouvre la porte, pouvoir placer des enfants à l'adoption, par exemple, très facilement, sans avoir à démontrer la nécessité ou l'urgence de les séparer de leurs parents biologiques. On comprend aussi que dans notre société, le taux d'infertilité grimpe en flèche très rapidement et que l'évolution aussi des couples change, la nature de l'évolution des couples change beaucoup, en tout cas chez nous, au niveau des nouveaux couples et des nouvelles famille LGBT+, c'est-à-dire des couples de 2, 3, 4 personnes pour un enfant. Donc, il y a toutes sortes de nouvelles associations et beaucoup de gens, il y a un bassin toujours grandissant de personnes dans la société qui sont incapables d'avoir un enfant et que l'adoption internationale est pratiquement morte. Ça se fait plus vraiment. Donc, où on va prendre la source?
Vous nous expliquez qu'ils sont en train d'aller chercher des enfants dans les familles traditionnelles pour les rendre disponibles à l'adoption dans des nouveaux types de familles?
Entre autres, mais il n'y a pas juste les nouveaux types de familles LGBT, il y a aussi toute la question de l'infertilité. Il y a
de plus en plus de familles qui infertiles. Donc, en fait, ce serait également, enfin, une des conséquences est d'alimenter le marché de l'adoption qui ne marche plus de manière internationale, donc on prend des enfants locaux pour les mettre sur un marché de l'adoption. C'est énorme.
C'est, C'est une possibilité, parce que la loi va offrir cette possibilité-là, parce que si on n'a plus à démontrer, s'il n'est plus nécessaire de démontrer l'urgence et la nécessité de retirer un enfant d'une famille pauvre, par exemple, donc on va pouvoir se saisir des enfants très facilement et placer les enfants dans des familles plus riches qui sont incapables d'avoir des enfants, ça veut dire ça. Placer des enfants dans des conditions où éventuellement ils vont avoir une meilleure éducation, etc., etc., peut-être. Toutefois, on tombe un peu, si vous voulez, dans l'eugénisme social. Mais la question à se poser, bon, bien entendu, ça se fera pas demain matin, mais la question à se poser, qu'est-ce qui va arriver dans 20, 25, 30, 40 ans? Si cette porte-là, on l'ouvre aujourd'hui.
Bien sûr.
Si on ouvre la porte aujourd'hui à se saisir d'un enfant sans avoir à le démontrer qu'il est dans son intérêt de le placer et qu'on sait qu'il y a un bassin de personnes riches qui vont être à la recherche d'enfants pour les adopter, écoutez, on peut associer les deux choses ensemble et se poser beaucoup de questions au niveau de l'eugénisme social.
Oui, bien sûr. Notamment, quand un enfant est placé chez vous, est-ce qu'on retire les droits parentaux aux parents? Chez nous, il y a encore un petit peu d'accès, on a encore certains droits. Quand il est placé, le lien est véritablement coupé, ils peuvent vraiment en faire ce qu'ils veulent de cet enfant ou est-ce qu'il y a encore un petit lien avec le parent biologique?
Encore une fois, si on revient au principe de l'intérêt de l'enfant, c'est l'intervenante de la DPJ qui décide s'il est dans l'intérêt de l'enfant de continuer à avoir des contacts avec ses parents.
Wow, c'est...
Donc, il y a beaucoup de contacts qui sont supervisés, mais d'une manière générale, je vous dirais que le processus actuel, c'est qu'on prend un enfant, on le retire de sa famille, et là, à ce moment-là, on a le droit de demander un 30 jours pour faire l'évaluation du dossier. Après ce 30 jours-là, il y a des prolongations de cours pour toutes sortes de raisons, des remises du tribunal pour un autre 60 jours. Et pour d'autres raisons, ça s'étire et ça dure pendant un an et demi. Et après un an et demi, on invoque le fait que la stabilité de l'enfant est un enjeu majeur et que l'enfant a développé des liens d'attachement avec sa nouvelle famille d'accueil. Donc, on demande au tribunal de laisser l'enfant en famille d'accueil. Donc, ça, c'est le fonctionnement actuel que moi, j'observe à discuter avec beaucoup, beaucoup de familles. Et à ce moment-là, il y a des visites supervisées qui sont organisées, mais ces visites supervisées-là, bon, sont peut-être une fois par deux semaines. Après ça, c'est une fois par mois. Après ça, c'est une fois par six mois. Et finalement, on vient dire aussi qu'après les visites avec ses parents, l'enfant est perturbé et qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de continuer à rencontrer ses parents biologiques. Donc, en bout de ligne, le lien, ça se cristallise et l'enfant ne voit pratiquement plus ses parents. C'est ce que moi, j'observe de tout ce qu'on me raconte depuis deux ans. C'est un peu toujours la même chanson que j'entends. Et on étire la sauce. Après ça, on invoque la stabilité de l'enfant. Avec la nouvelle loi, le DPJ va devoir faire un plan immédiatement pour placer l'enfant jusqu'à majorité ou un plan pour placer l'enfant à l'adoption. Donc ça, c'est un des nouvelles choses qu'on introduit dans la loi, c'est-à-dire le plan, je ne me souviens pas du nom qu'on donne exactement, mais le projet de vie alternatif doit être fait immédiatement, alors que dans la jurisprudence actuellement, on tend plutôt à faire le contraire, de ne pas agir trop rapidement. Mais là, la commission qui a étudié recommande d'aller très, très rapidement en nous disant que le temps de l'enfant va plus vite que le temps de l'adulte.
RLP. Radio Libre en Périgord.
Très rapidement, en quelques secondes là, parce qu'on va devoir couper après, vous êtes dans une contrée, on va dire, assez libertarienne par rapport à ce que nous avons nous en Europe. Vous êtes extrêmement attachés, vous, anglo-saxons, québécois, canadiens, aux libertés individuelles. Est-ce que ce mouvement, en fait, de venir dans les libertés individuelles, dans ce cercle très privé, c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est un mouvement général de société qui est en train de se passer actuellement à Québec?
Écoutez, c'est très difficile à dire parce qu'en ce moment, on constate qu'il y a beaucoup de changements dans la société. Dans toutes les sociétés, un peu partout dans le monde, je ne saurais pas m'aventurer dans une réponse à cette question-là.
Je comprends.
Puisque moi, j'étudie plus le dossier de l'intérêt de l'enfant et de la famille. Mon mandat, dans le fond, c'est de défendre les droits de la famille. Et on a tenté, dans le fond, de faire une approche qui est historique, c'est-à-dire de demander à intervenir dans un processus législatif qui fondamentalement...
Il y a des échéances qui arrivent, des dates...
Oui, on a tout suivi ce qui...
Il y aura une actualité, il y aura des échéances, des dates, des choses à prévoir qui vont se passer, donc vous avez déjà une visibilité dessus.
Présentement, je veux dire, le projet est en étude détaillée à la commission parlementaire, article par article, et lorsque le projet sera terminé, on verra si l'Assemblée nationale adopte ou n'adopte pas le projet de loi 15. Je veux dire, avec la démarche qui a été faite, on pourrait même saisir les tribunaux pour contester le projet de loi sous un angle qu'il est inconstitutionnel. Parce que je veux dire, c'est un peu malveillant de faire croire à la population que c'est à cause de la primauté parentale qu'une petite fille est décédée, alors que c'est une faute administrative, une négligence de l'État, et de refuser un grand nombre de parents biologiques à venir déposer leurs prétentions devant la commission qui étudie le projet de loi et ne recevoir que des employés de l'État, c'est un autre aspect qui devient pratiquement inconstitutionnel dans le processus législatif.
OK. C'était Alain Rioux sur RLP. Monsieur Rioux, nous vous remercions beaucoup. On sait que vous êtes très sollicité et très demandé, surtout actuellement. Vous nous avez consacré quasiment 50 minutes. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation. Nous vous suivrons sur Facebook. Alors, on peut vous trouver sur la page Facebook Les Papas en Action. Hein, c'est Les Papas Poids, mais c'est Les Papas en Action. Vous trouvez ça également aussi. Vous avez aussi alainrioux.org. On peut trouver plus d'informations. Je crois qu'il y a un site lespapasaupluriel.org qui explique un petit peu tout ça. C'est ça?
Exactement. Sur le site lespapas.org, c'est plus facile d'accéder à l'information puisque toutes les vidéos qui ont été mises sur Facebook ou sur YouTube sont placées en ordre, sont ordonnées et sont faciles d'accès sur la page lespapas.org, comme vous avez dit, à l'onglet référendum.
D'accord, très bien. Monsieur Rioux, merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci.
Je vous remercie également pour votre invitation. Au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
On a notre avocat Michel Hamas qui est en ligne. Et justement, tout à l'heure, une auditrice évoquait par rapport à son fils qui travaille dans un foyer d'enfants handicapés, le manque de masques, de protection d'hiver.
Bon, ça, évidemment, ça doit être un problème. Alors, on va accueillir Michel Hamas, qui est avocat au barreau de Marseille et ancien membre du Conseil de l'Ordre. Maître, bonjour.
Bonjour.
Alors justement, votre spécialité, vous intervenez dans les dossiers où des enfants sont placés par les services sociaux dans des foyers ou dans des familles d'accueil. Alors si on tire un peu la sonnette d'alarme, c'est parce qu'on a vu que sur les réseaux sociaux, vous aviez alerté le ministre. Quel est le problème avec les enfants qui sont en foyer aujourd'hui ?
D'abord, merci de relayer mon appel. Bonjour, donc je suis Michel Hamas, je suis avocat au barreau de Marseille. Le problème est tout simple. En France, il y a près de 140 000 enfants placés. L'essentiel de ces enfants sont placés dans deux types de structures, soit des foyers avec d'autres enfants, soit en famille d'accueil. À l'heure actuelle, nous sommes tous confinés. La situation se durcit tous les 2-3 jours, c'est un peu plus restreint. Ce qui fait que la situation va se dégrader pour les enfants qui sont au foyer. Alors le ministre a pris, notre garde des Sceaux a pris une décision en disant quand c'est possible, il faut rendre aux enfants, mais pas plus. Les parents aux enfants, les enfants aux parents.
Oh, oui, c'est ça.
Elle n'a pas dit plus, elle n'a pas donné de cadre. Ce qui est exactement la même situation qu'avant, partout où c'était possible, les juges doivent rendre les enfants aux parents. Ce qui fait que les juges sont très peu à avoir pris des décisions. Je viens de dire la chose suivante. Quand les enfants sont placés, malheureusement, ça va durer 1, 2, voire 3 années. C'est relativement long, vous ne le savez pas, mais un enfant placé, c'est extrêmement long. le placement.
Il faut peut-être expliquer, il faut expliquer quel est le profil de ces enfants placés.
C'est tout simple. Un enfant peut être placé essentiellement dans un cas qui est le plus important des dossiers de placement, c'est lorsqu'il y a un conflit entre le père et la mère, un vrai conflit avec des procédures tous les 15 jours, donne-moi le week-end, l'enfant le week-end, il m'a ramené, il l'a battu, ce qui est souvent pas vrai, ou il y a eu un attouchement sexuel, ce qui est souvent jamais prouvé, et il y a énormément de dossiers où les parents sont en grand conflit. On dit la mère dit du mal du père, le père dit du mal de la mère. Dès que à l'école un enfant vient en disant mes parents se disputent, maman me demande de dire ça ou mon père me demande de dire ça, en quelques 10 jours, 2 jours, quelques heures, votre vie peut être brisée. Il y a un juge qui rentre de votre vie, on prend votre gamin, on vous le prend, on le met dans une structure. On le met loin de vous, plus d'amis, plus de copains de classe, plus de grands-parents, plus rien. L'enfant est placé dans une structure, en général en foyer, c'est-à-dire avec d'autres enfants. Et parfois, quand c'est un peu mieux, en famille d'accueil, la relation de l'enfant est plus difficile et plus simple. Aujourd'hui, oui. Les enfants qui sont placés, quand on est en fin de mesure, on commence à avoir... à refaire confiance aux parents, c'est-à-dire ils ont des droits de visite et d'hébergement de week-end, ils vont avoir les droits des vacances, avoir les enfants pendant les vacances, comme s'ils étaient dans un divorce. Pour ces enfants-là, ceux où on fait déjà confiance aux parents, où on réenclenche, et objectivement, c'est après, en général, 1 voire 2 ans de placement, hein, on commence à avoir un hébergement sur ces enfants qu'après un temps très long, en général plus d'une année, parfois deux. Pour ces enfants où on refait confiance aux parents, qui doivent représenter en France 20 000 enfants.
D'accord.
Un tiers du stade Vélodrome. Pour ces enfants-là, je demande au ministre, je l'interpelle, partout où il y a des droits d'hébergement, rendez les enfants, parce que les enfants vont rester seuls dans les foyers, les encadrants vont plus venir, ils vont faire comme tout le monde, ils vont se protéger. Et ça va être open bar, il va y avoir de la violence, il va y avoir...
Des risques de contagion aussi, je suppose.
Des risques, mais confiner 40 enfants, même dans 200 mètres carrés, vous n'arriverez pas à les tenir. C'est tout simple. Il y a des risques sanitaires pour les enfants, il y a des risques sanitaires pour les encadrants, il y a un risque qu'on ne prend pas en compte parce que il y a un mépris face aux parents et face aux enfants qui est immense en France, c'est que ces enfants, ils souffrent.
Oui, je comprends bien.
En gros, c'est l'apocalypse qui nous arrive. C'est le début de Walking Dead, les 2 premiers épisodes.
Michel Hamas.
Ces enfants qui sont... Ouais.
Si je comprends bien, le ministre n'est pas opposé à ce que ses enfants puissent retourner chez leurs parents.
Pas, non.
Mais alors le problème il vient d'où aujourd'hui? Sont les juges qui selon vous peut-être manquent un peu de compassion ou je sais pas?
La directive est pas assez précise. On a mis les juges dans la même situation que celle qui est la leur en général. Faites au mieux et faites bien. Seulement les juges ils sont écrasés le travail et ils prennent pas trop de décision, parce que tout simplement, ils sont responsables, la plupart du temps, du moins, ils sont pas responsables, malheureusement. Mais ils prennent pas la décision. Il faut contraindre le juge, partout où il y a un hébergement, il faut le contraindre. On lui dit, là où il y a l'hébergement, rend les enfants. Le juge, à l'heure actuelle, certains juges, et ce sont ceux avec qui on se battait le plus. Par exemple, moi, j'ai des relations extrêmement tendues avec le juge pour enfants de Montmartre, mais lui, il a rendu. Tout de suite. Alors que, objectivement, d'habitude, il faut y aller à la baïonnette. On a une relation de guerre, lui et moi. Et ben lui, ce magistrat-là avec qui on était dans le fight, immédiatement, il a dit, bon, là, il faut rendre. Ça a été le cas dans d'autres régions, à Mulhouse, à Lyon, c'est le cas à Toulouse. Et par contre, il y a des juges qui rendent des décisions, on me dit non. À Agen, par exemple, on a rendu une décision qui est, pour moi, incompréhensible. On est passé il y a un mois, ils avaient dit « bon ben vous avez un droit d'hébergement pour les parents un week-end sur deux ». Et là, on en fait un courrier en disant « il y a le confinement, donnez-les à l'un et à l'autre, ou à l'autre, mais
pas en foyer, cet enfant. Voilà. Ne le laissez
et
pas
le
en foyer ».
Le magistrat a répondu « la situation n'a pas évolué de manière notable depuis un mois ». Comment ça n'a pas évolué
Il ne vit pas sur la même planète, oui.
nous sommes, la Terre entière est confinée, n'est pas les juges pour enfants. C'est-à-dire que dans l'esprit des services sociaux, l'empathie, prise en compte de la souffrance, n'existe pas. N'existe pas. Et alors, pour mille raisons que, objectivement, en tant que professionnel, je ne comprends pas. Alors, parfois, il y a des choses que l'on comprend. Un type qui viole, on le met en prison, bon, ben, c'est normal. Un type qui vole, au bout de plusieurs fois, on le met en prison un peu plus longtemps, c'est normal. Mais là, il faut commencer à faire confiance aux parents. Là, il y a un petit gamin de Marseille qui a un droit de visite et d'hébergement chez ses grands-parents une fois par mois et chez sa mère une fois par mois. On l'a placé à Vitrolles, là où il connaît personne. Il connaît Déguin, cet enfant, à Vitrolles. D'accord ? Ça fait un an et demi qu'il est seul comme un fenouil à Vitrolles, qu'il écrit des lettres toutes les semaines au magistrat en disant « S'il vous plaît, mettez un terme à ma souffrance ». Ce gamin-là à Milan, pourquoi il n'est pas avec Chloé, avec sa mère et avec ses grands-parents ? Qu'on me l'explique. Vienne me l'expliquer pourquoi ce gamin...
Michel Hamas, je pense quand même que le juge, s'il a pris cette décision, c'est qu'il y avait un danger pour l'enfant à rester dans son foyer, non ?
C'est long. C'est-à-dire que le placement est trop long. Là, maintenant qu'on fait confiance, il faut mener le raisonnement de la confiance jusqu'au bout.
Je comprends ce que vous voulez dire, oui.
Ils se surprotègent et ils ont raison, les magistrats, parce que on a une nana qui a tué son enfant un jour il y a un mois et demi en exerçant son droit d'hébergement. C'est une nana. Je dois avoir 580 dossiers depuis un an. Il y a plus de 1000 parents qui m'ont appelé dans des circonstances incompréhensibles. Et c'est un parmi 130 000 enfants. Un truc que les gens ne savent pas, il y a 76 000 détenus en France. On parle que d'eux.
Oui.
Il y a 130 000 ou 160 000 enfants placés et on n'en parle jamais.
Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup Michel Hamas d'avoir lancé cet appel.
C'est moi qui vous remercie.
Je vais le résumer, si vous le permettez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il y a donc des enfants qui, par décision de justice, ont été isolés de leur famille pendant un an, deux ans, trois ans. Au bout d'un certain temps, le juge va considérer que les parents, on va pouvoir leur accorder un droit de visite. Et aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi ces enfants restent dans des foyers et ne sont pas mis de façon, au moins pendant la période du confinement, chez un des deux parents. C'est bien ça.
Tout à fait.
Merci beaucoup Michel Hamas, avocat au barreau de Marseille. Peut-être qu'un juge aura envie de réagir lui aussi. Libre antenne sur Radio Star.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et n'oubliez pas d'aller voter sur la page Facebook de l'association Équité Parentale afin de faire vos propositions pour le nouveau nom de l'émission afin de trouver un titre plus conventionnel, on va dire, sans pour autant dénaturer notre identité et notre contenu. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye.